La plainte, méthode queer, par Sarah Ahmed. Tu pourrais bien avoir un combat à mener. Tu pourrais bien avoir à te battre pour te faire une place. Une place pour exister. Une place pour faire des choses. Une place pour faire ton travail sans être remis en question ou surveillé. Il se peut que tu doives te battre dans la vie pour te frayer un chemin sans danger. Pour trouver une manière d'avancer. De progresser, d'arriver quelque part, sans avoir à rien abandonner, ni toi, ni tes désirs. Un combat peut être riche de leçons. Nous apprenons beaucoup en tentant de transformer des mondes qui ne s'adaptent pas à nous. Mais ce combat peut aussi s'avérer sacrément difficile. Lorsque tu dois lutter pour exister, à la fin, tu peux avoir l'impression que l'existence est une lutte. Voilà pourquoi nous avons besoin les unes des autres. Nous devons devenir des ressources les unes pour les autres. Lorsque je pense à la plainte comme méthode queer, je fais référence à cette histoire qui retrace les combats menés pour se faire de la place, et au fait que c'est en menant ce combat que nous sommes devenus des ressources les unes pour les autres. Si nous avons des programmes queer, des espaces queer, des événements queer, ce n'est pas simplement parce que ça fait du bien de les avoir, même si c'est le cas, et heureusement. C'est aussi parce que nous en avons besoin pour survivre aux institutions qui ne sont pas faites pour nous. Dans mon dernier livre, Complaint, la plainte, 2021, je décris ainsi la plainte comme un travail contre-institutionnel. Pour créer des espaces au sein des institutions, il arrive bien souvent que nous finissions par y travailler à contre-courant. J'ai entamé mes recherches à ce sujet, inspirée par ce que j'ai traversé en soutenant un groupe d'étudiants qui avait déposé une plainte collective pour harcèlement sexuel. Les étudiants avec lesquels je travaillais alors sont devenus ma collective de plaintes. J'éprouve de la reconnaissance pour la participation de Leila Whitley, Tiffany Page, Alice Coble, avec le soutien de Heidi Hasbrook, Krista Zdrolia, et d'autres à l'écriture de l'une des deux conclusions du livre, au sujet du travail qu'elles ont réalisé en tant qu'étudiantes. À la fin de leur conclusion, elles disent comment elles ont fait bouger quelque chose et comment les choses ne sont plus telles qu'elles étaient avant. Faire bouger quelque chose au sein d'une institution revient parfois à bouger beaucoup de choses, et cela peut réclamer beaucoup de nous. J'introduis l'idée de la plainte comme méthode queer dans ma conclusion du livre, et je souhaiterais aujourd'hui expliquer un peu plus ce que j'entends par là. Lorsque je parle de la plainte, je n'évoque pas seulement les mécanismes formels, j'inclus aussi les sens plus affectifs et incarnés de ce terme. Je m'intéresse en particulier à la manière dont certaines d'entre nous sommes entendues comme plaintives et jugées négatives, tant dans ce que nous sommes que dans ce que nous disons. Être entendu comme plaintive, ce n'est pas être entendu, c'est ne pas être entendu. Le livre s'ouvre sur ces mots, délibérément formulés avec force. Une universitaire lesbienne donne cette description. Si un problème se présente et que tu portes plainte, alors tu deviens la femme qui se plaint, la lesbienne qui se plaint. Et ensuite, évidemment, tu deviens la sorcière que l'on chasse. La bouc émissaire, la prétentieuse qui pose problème. Tu deviens la femme qui n'est pas à sa place. Tu deviens tout ce que ton harceleur t'accuse d'être, parce que personne ne t'écoute. Et tu n'aimes pas t'entendre parler ainsi, mais tu finis par te retrouver dans cette situation, encore une fois. Tu les entends déjà dire, et voilà, c'est reparti. Nous avons ri ensemble lorsqu'elle a dit cela. Consciente que l'une et l'autre reconnaissions la dynamique en jeu. Nous nous entendons au travers du son familier de l'usure des mots que nous partageons, de l'expérience de devoir affronter les mêmes situations encore et encore. La plainte semble saisir d'un tenant comment celles qui défient le pouvoir deviennent le lieu de la négation. Les plaignantes deviennent alors des réceptacles pour les affects négatifs. Des réceptacles qui fuient, qui déborde tout autant qu'il parle. Ce n'est pas rien, cette sensation de la négation. Pensez aussi au mot queer. Nous revendiquons ce mot, utilisé pour nous insulter ou nous calomnier, non pas en essayant de nous séparer de sa négativité, mais en lui réassignant une nouvelle fonction, celle d'outil. La plainte peut, elle aussi, réorienter la négativité, en faisant de la négativité un outil. Lorsque j'emploie l'expression « la plainte, méthode queer », je pense également à ma propre méthode, ma propre manière d'écouter les personnes qui portent plainte et comment cette écoute permet de collecter et de conserver des données afin de leur donner une chance de mieux se déverser ailleurs. Ma méthode est une affaire d'oreille. Non pas un queer eye for the straight guy, un regard queer pour le mec hétéro, mais deux oreilles queer pour mes pères queer. Les plaintes, des histoires pour sortir du placard. Les plaintes sont rendues confidentielles à partir du moment même où elles sont enregistrées. Elles ont lieu à huis clos. Huis, un vieux mot pour dire porte. C'est la raison pour laquelle il y a tant de portes dans ces histoires. L'oreille queer est peut-être une oreille collée contre une porte. Nous n'écoutons pas simplement ce qui se dit de l'autre côté de la porte, mais nous écoutons aussi ce que nous dit la porte. Très tôt, lorsque j'ai commencé cette recherche, j'ai remarqué que les portes ne cessaient d'y faire leur apparition. Des portes concrètes, des portes aux poignées difficiles à actionner, des portes battantes, des portes qui servaient à indiquer ce que l'on peut ou ne peut pas faire, des portes pour désigner les lieux où l'on peut ou ne peut pas aller. L'expression « huis clos » peut décrire des portes bien réelles qui ont été fermées pour permettre à quelqu'un de raconter son histoire en toute confidentialité. Elle peut aussi faire référence au processus qui consiste à maintenir une chose secrète, à éviter qu'elle ne soit divulguée à un large public. Dans Complaint, je tente d'ouvrir une porte, de faire sortir ou d'exprimer une chose qui avait été gardée secrète. Ouvrir une porte peut prendre du temps. Une étudiante est harcelée par son directeur de recherche. Cette étudiante est une femme queer racisée, issue de la classe ouvrière. Elle est la première personne de sa famille à entrer à l'université. Elle a dû énormément se battre pour arriver là où elle se trouve. Elle sait que quelque chose ne va pas. Son encadrant ne cesse de repousser les limites un peu plus loin, lui proposant de se rencontrer en dehors de la fac, puis dans un café, puis chez lui. Elle essaie de gérer la situation. J'ai fait de mon mieux pour que toutes les rencontres aient lieu à l'université et pour qu'il y ait toujours une porte ouverte, dit-elle. Elle garde la porte ouverte, une porte bien concrète, au moment même où elle ferme une autre sorte de porte, qu'on pourrait nommer la porte de la conscience. Elle ajoute « J'ai pensé que j'allais me porter préjudice en acceptant de voir la violence qu'il démontrait. » Se porter préjudice, parfois admettre la violence, accepter de la voir en action, peut te donner le sentiment d'être ta propre rabat-joie, de te mettre en travers de ta propre progression. Admettre peut signifier avouer, accepter de dire une vérité. Admettre peut aussi signifier intégrer, laisser quelque chose entrer. Notons combien les portes peuvent être le siège de contradictions. Garder la porte du bureau ouverte revient à admettre une vérité que l'étudiante manie de sorte à ne pas la laisser entrer en elle. Il arrive que l'on ne puisse plus manier certaines poignées de porte. Je cite. À un autre déjeuner, j'étais assise avec une collègue et il a commencé à m'envoyer des photos de lui, nu, par texto. Et ça a été le moment où j'ai atteint la masse critique, le seuil de ce que je ne pouvais plus supporter. J'ai dit « Regarde ça ». Et elle était là, tu vois ce que je veux dire, complètement abasourdie. Que tout d'un coup, ça s'insinue en moi, en elle, au milieu de cette conversation. À quel point c'était horrible et violent que j'ai à recevoir ces choses. Et voilà, en gros, c'est ça qui a mis le processus en marche. Fin de citation. Parfois, nous utilisons une poignée pour empêcher une violence dirigée contre nous de s'insinuer ou de s'infiltrer en nous. Lorsque la poignée cesse de fonctionner, la violence ne s'insinue pas seulement en elle, mais elle atteint aussi sa collègue, ses conversations, l'espace même dans lequel elles ont cette conversation. Lorsqu'une plainte est adressée contre une chose, contre un objet, alors le sujet de cette plainte est difficile à contenir. Des objets volent en éclats. Les plaintes peuvent couriser le temps aussi bien que l'espace. Elles finissent éparpillées, en charpie, tout comme nous. Lorsque la violence entre, une plainte sort. Cependant, ce n'est pas un interrupteur, une qui entre, une qui sort. Pour qu'une plainte voie le jour, l'étudiante doit porter plainte. Elle doit continuer d'énoncer sa plainte. Je pense que j'ai commencé à croire que si j'exposais ça publiquement, ma propre carrière allait en souffrir, dit-elle. Son usage du terme « exposer » et ce « publiquement » nous enseigne comment les plaintes, voyageant loin de nous, emportent quelque chose de nous au passage. Exprimer une plainte, l'exposer, c'est précisément l'envoyer dans le monde au sujet duquel la plainte est déposée. D'où le titre donné à la deuxième partie de Complaint, « The Immanence of Complaint », l'immanence de la plainte. Judith Butler a demandé en 1991 « Le sujet enfin sorti du placard est-il libre de toute subjectivation et enfin à l'abri ?» Il me semble que nous savons que non. Butler poursuit « Par convention, on dit qu'une personne sort du placard. Nous sommes donc sortis du placard, mais où sommes-nous alors entrés ? Dans quelle nouvelle spatialité sans borne ? La chambre, le salon, le sous-sol, le grenier, la maison, le bar, l'université ? » Butler évoque ensuite une porte qui enferme, la porte de Kafka. Une porte qui semble promettre quelque chose, une ouverture, de l'air frais, la lumière d'une illumination qui n'arrive jamais. Porter plainte, c'est aussi, en un sens, sortir du placard, s'exposer, ne plus être à l'abri. Cette entrée dans le monde même qui refuse d'admettre ceux-là et celles-là qui se plaignent. Peut-être es-tu parvenu à admettre ce qui t'était arrivé, mais lorsque tu essaies de le dire aux autres, comme l'a fait cette étudiante, tu entends encore davantage de portes se refermer. Entrer quelque part, c'est aussi atteindre quelque chose ou quelqu'un. Tu adresses ta plainte à une personne, à un bureau. Elle s'adresse au bureau responsable de la gestion des plaintes. Yael faisait genre « tu peux déposer une plainte, mais il est vraiment très apprécié l'université, il a de nombreuses publications à son actif, tu vas devoir passer par toute cette souffrance émotionnelle. » On m'a même suggéré qu'il pourrait ensuite porter plainte contre moi pour diffamation. En gros, on me disait « tu peux le faire, mais pourquoi le voudrais-tu ?» Fin de citation. L'avertissement qui te prévient qu'une plainte aura de sérieuses répercussions pour toi peut prendre la forme du fatalisme institutionnel. Des affirmations qui décrivent les institutions, qui décrivent ce qu'elles sont, en décrivant ce qu'elles seront, en désignant quel type de personnes elles sont susceptibles d'apprécier, de protéger. En fin de compte, elle n'a pas déposé plainte officiellement, parce qu'elle comprenait ce qu'on lui disait, qu'elle n'irait nulle part, que ça n'aboutirait à rien, parce que lui, au contraire, irait là où il voulait. Quel lien existe-t-il entre le fatalisme institutionnel et ce que j'appelle le fatalisme queer ? Le fatalisme queer, Ahmed 2017, c'est le présupposé selon lequel être queer, c'est se précipiter vers un destin pitoyable. Qu'être queer, une vie faussement décrite comme un style de vie, c'est se mettre sur la voie de ce qui fait du mal, de telle sorte que si ça tourne mal, et soyons réalistes, ça arrive toujours à un moment ou à un autre, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même, lorsqu'on te déconseille de te plaindre, ce que l'on te demande, c'est de rectifier ton attitude, de rentrer dans le rang des institutions, de donner de la valeur à ce qu'elles valorisent, d'aimer celles qu'elles aiment, de protéger celles qu'elles protègent, si du moins tu prétends suivre la voie de la réussite. Rien de surprenant dès lors à ce qu'une plainte puisse avoir une trajectoire queer. Si tu t'éloignes de cette trajectoire, si tu te plains non seulement des personnes qui sont aimées et protégées par les institutions, mais aussi du système lui-même, alors quoi? Tu ouvres la porte de la conscience pour t'apercevoir qu'une nouvelle porte se ferme. C'est ainsi que les portes nous parlent du temps, le temps de la répétition, des actions que nous devons sans cesse entreprendre, des arguments que nous devons sans cesse défendre. Cela peut exiger du temps et aussi des efforts pour qu'une plainte sorte au grand jour. Les personnes queer et trans savent bien que faire son coming out, sortir du placard, ne se fait pas en une fois, en un événement unique. Il te faut sans cesse faire ton coming out à cause de l'habitude qu'a le monde de s'attendre à un certain type de corps. Sans cesse corriger les pronoms qu'on utilise pour tes partenaires ou pour toi. S'exposer, sortir du placard, comporte cet épuisant travail de correction. Et la correction est souvent entendue comme une plainte, un reproche, comme négative, assertive, exigeante. Si tu dois continuer à sortir du placard à chacune de tes remarques, les frontières entre l'intérieur et l'extérieur finissent par devenir floues. Je pense à la manière dont Ahmed Ibrahim, 2020, crée une brèche dans cette structure dedans-dehors en offrant une puissante relecture du placard à la lumière des vies et des archives queer en Égypte. Ibrahim utilise le langage de l'infiltration, la manière dont la queerité suinte, rendant plus difficile la distinction entre le dedans et le dehors. Il existe de nombreuses fuites dans l'histoire de la plainte. Une enseignante chercheuse, en début de carrière, était harcelée sexuellement par un professeur plus âgé, son supérieur hiérarchique, principalement sous la forme de sollicitations constantes. Il lui envoyait des emails sur son désir de lui sucer les orteils. Elle pensait avoir géré la situation en s'adressant à sa responsable hiérarchique pour que celle-ci demande à ce professeur d'arrêter, sans savoir que sa responsable n'avait pas donné suite à sa demande. Lorsqu'une plainte n'est pas transmise, le harcèlement se poursuit. Je cite. Ensuite, j'étais en réunion avec ma responsable hiérarchique et son responsable hiérarchique, et nous étions dans ce bureau tout petit, une salle de réunion qui ressemble à un bocal à poisson rouge. Et à côté, il y avait le grand espace de travail où les bureaux de toute l'équipe se trouvent. Et il m'a envoyé l'email. Et j'ai émis ce son. C'est impossible de bien le décrire. C'est comme si on moulinait lentement tes tripes, comme dans un hachoir à viande. Mon Dieu, ça ne va pas s'arrêter. Et j'ai émis ce son à voix haute. Et le responsable de ma responsable a demandé. Qu'est-il arrivé ? J'ai retourné mon ordinateur et je lui ai montré, et son commentaire fut « Bon sang, comment peut-on être aussi stupide pour mettre ça dans un email ?» On pouvait voir la panique dans son regard à elle, du genre « Merde, ça n'a pas disparu comme par magie. » Fin de citation. Ce son, ce « transperce la réunion, cette réunion qui prend place dans la petite pièce en verre, un bocal, où tous sont visibles. Une chose peut devenir visible et audible, parfois malgré toi. Une plainte, c'est ce qui sort lorsque tu ne peux pas en encaisser davantage. Tu ne peux tout simplement pas en recevoir davantage. Tes tripes, comme de la viande hachée, une plainte comme ce qui te retourne de fond en comble. Remarquez comment, une fois le problème entendu, il n'est pas tant traité comme celui du harcèlement que comme celui d'en avoir une preuve. Bon sang, comment peut-on être aussi stupide pour mettre ça dans un email ? Rappel de citation. Un son peut devenir une plainte, car il fait remonter à la surface la violence présente dans une pièce. Une violence que l'on n'aurait pas affrontée autrement. le responsable de sa responsable, maintenant alerté, et ce, en présence de témoins, entame une procédure officielle. Elle utilise le mot « imploser » pour décrire ce qui arriva ensuite. Elle participe à une nouvelle réunion. Voici ce qu'elle dit. Et cette réunion n'en finissait pas. Et c'était genre, on passait par tous les points et mon chef n'était pas là, il ne participait pas. Et il est devenu évident à ce moment-là que quelque chose se jouait qui me dépassait. C'était la première fois que je me rendais compte de l'ampleur du pétrin. Le professeur a disparu. Soudain, il n'était plus là. Avait-il été renvoyé ou avait-il démissionné? Je ne l'ai jamais su. Mais ce qu'il raconta à mes collègues, c'est qu'il avait été forcé de partir à cause de moi. On a tout entendu ça des milliers de fois. Fin de citation. Les histoires peuvent être familières. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend parce que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Même si elle n'a pas été à l'origine de la plainte, elle est pourtant décrite par lui comme celle qui l'a obligée à partir, et elle n'a aucun moyen de contredire ce récit. Ses collègues commencent à parler d'elle comme de la femme qui a fait perdre son boulot à un homme parce qu'il avait dit vouloir lui sucer les orteils. En pratique, la confidentialité, souvent justifiée comme nécessaire pour protéger celles qui portent plainte, permet aux personnes qui ont le bras le plus long d'avoir un meilleur contrôle sur le récit qui est fait de la plainte. L'histoire de ce que devient une plainte et l'histoire qui a conduit à la plainte peuvent parfois parler de la même chose. Qui contrôle la situation? Qui contrôle la narration? La plainte, des histoires sur les institutions. Je voulais commencer par ces deux histoires de plainte, par la manière dont elles sont sorties au grand jour, des histoires assez compliquées, des histoires queer. Les récits de plaintes produits par l'institution sont assez différents. Sur le papier, et telle est probablement la manière institutionnelle de raconter l'histoire, une plainte peut prendre l'aspect d'un diagramme bien propre, avec des lignes droites et des flèches bien pointues, offrant à la personne qui deviendra la plaignante un itinéraire tout tracé. Mais si l'on voulait représenter le dépôt de plainte du point de vue des plaignantes, cela ressemblerait plutôt à l'image ci-dessous, une belle pagaille, un imbroglio. Une fois qu'on est dedans, on ne trouve plus comment en sortir. Et si cette pagaille donne l'image d'une plainte, elle peut aussi être l'image de ta vie, une vie qui s'effiloche. L'enseignante chercheuse en début de carrière dont la plainte est sortie sous la forme d'un son donne cette description. C'était comme être prise au piège dans un mauvais rêve où tu dois sauter d'une partie à une autre car tu n'en connais pas le scénario. Déposer plainte peut donner l'impression d'être le personnage de l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu sais que ce qui se passe n'est pas ce qui est censé arriver, mais tu ne comprends pas pour autant ce qui arrive. Je m'en souviens pour l'avoir vécu. Tu as toutes ces conversations. Les réunions s'enchaînent, mais la plupart des personnes avec lesquelles tu travailles ne savent pas ce qui se passe. Tu dois continuer ton autre travail, le travail pour lequel tu as été embauché. Et ce monde, prétendument réel, ce monde lumineux et parfait sous tout rapport, commence à devenir de plus en plus irréel, à l'envers, sans dessus-dessous. Une plainte peut faire de ta relation à l'institution une relation queer. Queer, dans son ancien sens de bizarre. Dans mes entretiens, je retrouve partout ces mêmes mots. Particulier, bizarre, étrange, surréel, déroutant. Le manque de clarté devient le monde que tu habites. Une enseignante chercheuse dépose plainte pour harcèlement contre la chef de son département. Et elle le fait en partie parce que son université a développé de nouvelles politiques et procédures de dépôt de plainte. Elle décrit ces nouvelles réglementations comme une simple façade et dit qu'elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Une politique annoncée peut être l'affiche de premier plan d'une institution. Lorsque tu portes plainte, tu commences à voir au-delà des apparences. C'est la raison pour laquelle je parle de la plainte comme d'une phénoménologie de l'institution. Tu fais passer à l'avant ce qui avait été relégué à l'arrière-plan. Tu dois faire demi-tour, retourner sur tes pas. Porter plainte, c'est assurément revenir en arrière, rembobiner le temps. Tu dois repasser sur ce qui n'est pas passé. La plante a une temporalité particulière, une temporalité queer, qu'on pourrait décrire avec l'expression « temporal drag », traînée temporelle, un temps qui traîne et s'étire, de Elizabeth Freeman, 2010. Les plaintes traînent, les réunions s'étirent, encore et encore. Se plaindre, c'est retourner en arrière dans un sens spatial. Tu vois ce qui se trouve au dos des choses, pour réemployer une expression que j'utilise dans Queer Phenomenology. Une autre universitaire tente de faire appel à des réglementations existantes au cours de sa plainte déposée pour plagiat et racisme. Elle aboutit au même constat. Ces réglementations sont vides de sens. On pourrait décrire ces réglementations comme non performatives. Elle ajoute « On m'a dit qu'il s'agissait désormais d'une procédure officielle. Il m'a fallu éplucher toutes les réglementations. J'ai découvert ce brouillard. Il était permanent. Chaque fois que quelque chose de clair m'apparaissait, si l'on suit la réglementation, n'est-ce pas cela qui est censé se passer ? Blablabla. Ça a duré environ 10 ans. N'est-ce pas cela qui est censé se passer ? Et on me répondait « Non ». Se voir répondre « Non », c'est entendre que, peu importe depuis combien de temps une réglementation est en vigueur, elle n'aura pas d'influence sur ce qui se passera. Même si les réglementations ne sont pas respectées, elles existent tout de même sur le papier. Pour ces réglementations qui n'existent pas sur le papier, elle parle de réglementations de l'ombre. Elle utilise cette expression pour rendre compte du fait que ses collègues universitaires blanches se voyaient accorder plus de temps de recherche que les universitaires racisés. En raison d'arrangements passés en coulisses, et malgré des engagements officiels censés garantir une équité de traitement, la répartition des crédits de recherche finit toujours par avantager les universitaires blanches. Une ombre est une surface sombre qui résulte d'une obstruction. Une source projette une lumière qui se retrouve bloquée par un objet opaque. L'expression « réglementation de l'ombre » nous dit quelque chose du lieu où les décisions sont prises, nous apprend quelque chose des surfaces non éclairées d'une pièce, tout comme elle nous informe sur la manière dont ces zones sont créées. La première partie de Complaint, intitulée Institutional Mechanics, mécanique institutionnelle, explore le fossé entre ce qui est censé se produire lorsque l'on porte plainte et ce qui se produit effectivement. Porter plainte revient à découvrir le fossé entre deux universités. D'une part, l'université telle qu'elle apparaît, sur le papier, avec des réglementations qui existent et qui ne sont pas appliquées, une université fictive dédiée à la diversité et à l'égalité, comme elle n'a de cesse de le dire à propos d'elle-même, et d'autre part, l'université telle qu'elle est, avec des réglementations qui n'existent pas, mais qui sont appliquées, avec l'inégalité comme mode opératoire. Tu te retrouves au bord d'un trou. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Tu tombes en plein dedans. Cet écart, parce qu'il nous donne des informations sur la plainte, nous en donne aussi sur l'université. C'est pourquoi il est important pour moi de montrer ce que celles qui portent plainte savent. J'ai parlé avec une enseignante chercheuse en début de carrière au sujet d'une plainte déposée après que son université a refusé d'adapter sa charge de travail au retour d'un long congé maladie. Elle est neuroatypique et elle a besoin de temps pour reprendre le travail, pour faire son travail. Même si elle a la preuve que l'université n'a pas respecté ses propres réglementations et procédures, sa plainte n'aboutit pas. Voici les mots qu'elle utilise pour décrire ce travail. Début de citation. C'était comme un oisillon qui aurait essayé de se défendre en griffant de ses petites pattes sans que cela ait le moindre effet. Un tout petit oisillon, petit et caché derrière une porte fermée. Je pense que peut-être les gens croient qu'à cause de la nature de la plainte et parce que j'avais été en congé maladie, il fallait être poli et ne pas en parler. Et je pense aussi qu'une grande partie de leur politesse provenait du fait de ne pas vouloir dire quoi que ce soit à ce sujet. Et cela a peut-être à voir avec le fait d'être dans une institution et avec la manière dont elles sont construites. De longs couloirs, des portes qui ferment à clé, des fenêtres rendues opaques par des volets qu'on déroule, il semble que cela s'imprègne dans chaque espace, une impression d'enfermement, sans air, où on suffoque. Fin de citation. La plainte que tu portes peut revêtir un caractère d'extériorité, devenir une chose dans le monde. Tu grattes, petit oiseau, tu mets toute ton énergie dans une activité qui a tant d'importance pour ce que tu veux, pour ce que tu peux faire, pour ce que tu peux être, mais qui semble à peine laisser une marque. Plus tu essayes, plus cette trace s'estompe et plus tu t'estompes avec elle. Comme elle, tu deviens de moins en moins visible. Je pense à ces oiseaux qui grattent de leurs griffes et je pense aussi à la description donnée par une travailleuse de la diversité au sujet de son travail. Elle dit « Un boulot à se cogner la tête contre un mur en briques. » Lorsque le mur ne bouge pas, c'est toi qui finis par avoir mal. Et il semble que tu n'aies pas... Et il semble que tu n'aies fait qu'égratigner la surface. Cette égratignure, cette griffure, te fait sentir les limites de ce que tu es en mesure d'accomplir. Lorsque j'ai entendu les oisillons de son histoire, mes oreilles queer se sont dressées. Dans mon livre sur les usages de l'usage, What's the Use? À quoi ça sert? 2019, j'utilise l'image de l'usage queer, cette manière dont les choses peuvent être détournées des usages pour lesquels elles avaient été conçues, par celles pour qui elles n'avaient pas été conçues. L'image d'une boîte aux lettres avec un mot dessus. Des oiseaux font leur nid. S'il vous plaît, n'utilisez pas cette boîte. Merci beaucoup. Les oiseaux font de la boîte aux lettres un nid. Voici une image plutôt heureuse et pleine d'espoir. Généralement, lorsque nous nous retrouvons dans des institutions qui n'ont pas été pensées pour nous, on nous intime de retourner à notre propre boîte, de retourner d'où nous venons, de rentrer chez nous. Si cet oiseau qui donne des coups de griffe constitue une plainte, la tentative de créer un presque nid dans un environnement hostile constitue une plainte. Pourquoi convoquer l'expression « environnement hostile » ? De nombreuses mesures pour lutter contre le harcèlement utilisent l'expression « environnement hostile » pour décrire les cultures du travail discréditant ou humiliant une ou plusieurs personnes. Au Royaume-Uni, l'expression « environnement hostile » a depuis été utilisée par le gouvernement pour nommer des mesures sur l'immigration illégale. Le fait qu'une expression qui servait déjà de définition pour nommer le harcèlement au travail se retrouve employée pour décrire ces mesures nous montre comment le harcèlement devient une mesure nationale. La catégorie de l'immigré illégal est une catégorie racialisante. Tu peux être racisé ou noir et né ici, et il se peut pourtant que l'on continue de te demander de repartir, de rentrer chez toi. Oui, c'était un message exhibé sur une fourgonnette. Le harcèlement racial comme mesure nationale. Le droit de questionner celles qui semblent ne pas être d'ici. Le droit de questionner celles qui semblent ne pas être d'ici. Le droit de questionner certaines personnes en raison de ce à quoi elles ressemblent. Ou étudiants trans racisés porte plainte pour harcèlement sexuel et harcèlement transphobe de la part de son encadrant, qui ne cesse de lui poser des questions intrusives sur son genre et ses organes génitaux. Les questions peuvent devenir des coups de massue. Pour certains, être questionné signifie être remis en question. Ces questions s'intègrent à un langage du souci pour la sécurité de l'étudiante, partant du principe qu'elle serait en danger si elle menait ses recherches dans son pays natal. Les jugements racistes place souvent le lieu du danger là-bas, dans un ailleurs non blanc. Les jugements transphobes placent souvent le lieu du danger ici même, dans le corps de la personne trans. Comme si le fait d'être trans était une incitation à la violence que tu reçois. Lorsqu'Olle porte plainte, que se passe-t-il? Olle raconte. Les gens essayaient d'évaluer s'il avait raison de croire que j'étais en danger physique ou non, à cause de mon identité de genre, comme pour dire qu'il avait raison d'être inquiet. Les mêmes questions intrusives qui t'ont amené à porter plainte te sont à nouveau posées parce que tu portes plainte. Avoir raison de s'inquiéter devient avoir le droit de s'inquiéter. Aujourd'hui, un grand nombre de cas de harcèlement est produit sous couvert du droit à s'inquiéter. Nous avons le droit d'être préoccupés par l'immigration en tant que citoyenne. Nous avons le droit d'être préoccupés au sujet des droits liés au sexe en tant que femelle humaine adulte. Ce droit à l'inquiétude est ce qui cautionne la production de la violence. Une violence qui s'appuie sur la suspicion que certaines personnes ne sont pas qui elles prétendent être, que certaines personnes n'ont aucun droit d'être là où elles sont, que certaines personnes n'ont aucun droit d'être. Les plaintes au sujet d'environnement hostile sont déposées dans des environnements hostiles. Une femme racisée m'a parlé d'une conversation qu'elle a eue avec son chef de département. Elle essaie de lui expliquer pourquoi les étudiantes racisées ne pensent pas qu'elles peuvent porter plainte pour racisme. Voici ce qu'elle dit. Il a dit qu'il avait de la compassion à cause du Brexit, puis il a commencé à parler d'étudiantes musulmanes attaquées dans le bus. J'ai répondu. Le département reproduit une culture qui n'est pas inclusive, malgré toute la compassion que tu peux ressentir. Si tu as vécu cette expérience dans le bus, tu ne vas pas venir dans ce département universitaire pour en parler, n'est-ce pas? Ce même département où les personnes blanches, lorsque tu viens te servir une tasse de thé, s'éloignent dans un autre espace de la pièce. Il semblerait qu'une plainte pour racisme puisse être reçue avec compassion si le racisme est ailleurs, à l'extérieur, dans la rue, dans le bus. Fin de citation. La déclaration de compassion du responsable du département, sa performance de la compassion, est dirigée vers le racisme se trouvant là-bas. Mais regarder le racisme qui a lieu là-bas peut être ta manière de ne pas voir celui qui se produit ici. Cela peut être ta manière de ne pas voir comment tu le produis ici. Des personnes blanches qui changent de place dans une pièce. Le racisme peut être ce qui empêchera une plainte pour racisme d'être déposée. Je pense à la manière dont les réglementations peuvent, quand elles sont promulguées, devenir ce qui nous empêche de voir ce qui se passe. La diversité aussi peut produire cet effet. Quand la diversité apparaît, elle peut nous empêcher de voir ce qui se passe et comment cela se passe. L'institution peut donner l'impression d'être accueillante. L'institution est sa porte ouverte. Entrez, minorité, vous êtes les bienvenus. Mais ce n'est pas parce qu'on t'annonce la bienvenue qu'on s'attend pour autant à ce que tu débarques. Parfois, tu ouvres une porte et la seule chose que tu trouves derrière, c'est un environnement hostile, autrement connu sous le nom de Comité pour la diversité. Cette chercheuse racisée décrit son expérience. Je siégeais dans le groupe pour l'égalité et la diversité de l'université. Et dès que je commençais à évoquer des sujets relatifs à la race, on changea le profil des personnes qui pouvaient participer au comité et j'en fus virée. Si on se débarrasse de toi lorsque tu commences à mentionner des choses en lien avec la race, c'est que le comité pour la diversité est ce qui permet de ne pas mentionner les choses en lien avec la race. À un autre moment, elle écrit un article pour un numéro spécial d'une revue sur la décolonisation de sa discipline. Elle reçoit un retour de l'éditrice, blanche. On me répond « A besoin d'être adouci. Pas suffisamment d'apport de la littérature scientifique pour soutenir les arguments avancés. » En gros, retourne dans ta boîte. Et si tu veux décoloniser, on le fera à notre façon. Être renvoyé du comité pour la diversité pour avoir mentionné des choses en lien avec la race est en continuité avec la demande d'adoucir les propos d'un article rédigé pour un numéro spécial sur la décolonisation. La blanchité peut très bien occuper des territoires avec le label décolonial. Je nomme parfois cela la blanchité décoloniale. Retourne dans ta boîte. Je repense à la boîte aux lettres qui est devenue un nid. On aurait pu imaginer un autre mot sur cette boîte. Chers oiseaux, soyez les bienvenus. La diversité est ce mot, cette affiche. Cette affiche serait non performative si la boîte aux lettres était toujours utilisée, car les oiseaux seraient délogés par les lettres. Un nid détruit avant d'avoir eu le temps d'être créé. Toutes ces questions. Qu'est-ce que tu es? d'où tu viens, ces consignes, baisse d'un ton, adoucis ton propos, fonctionnent comme des lettres s'accumulant dans la boîte jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place, plus d'espace pour respirer, pour faire un nid ou pour exister. Si la diversité est cette affiche, alors la diversité masque l'hostilité d'un environnement. Un homme important et autre histoire de reproduction. Une étudiante de master hésitait à porter plainte contre le comportement d'un professeur. Elle avait déjà remis en question son programme qui ne comportait jusqu'à la 10e semaine que des hommes blancs. Un jour, elle doit rédiger un essai dont il assure le tutorat. Elle lui dit qu'elle souhaite rédiger un essai sur le genre et la race. Il lui répond « Si tu écris sur ces sujets de merde, je t'assure que tu ne valideras jamais ce cours. Si tu crois que ces questions sont pertinentes dans mon cours, alors t'as vraiment rien pigé. » Lorsque tu poses les mauvaises questions, tu constates la violence de la correction. Mais ensuite, il dit « Attends, tu sais quoi? T'es tellement vieille et on a un peu rien à faire de tes notes. C'est pas comme si t'avais une carrière universitaire devant toi. Donc vas-y, tu peux bien écrire ce que tu veux. T'auras pas ton semestre, mais on s'en tape, pas vrai? T'es pas là pour avoir des bonnes notes. T'es pas là pour une carrière, c'est clair que t'es là parce que tu veux apprendre. Donc ouais, tu peux bien écrire ce que t'avais en tête, ça n'a pas la moindre importance. » Fin de citation. Elle se voit effacée par ses propos. La plaignante, qui remet en question le contenu du programme, devient la féministe qui pose les mauvaises questions. Elle devient la vieille femme dont personne ne se soucie, qu'elle ait raison ou non, à la fois sorcière et vieille bique, parce qu'elle ne peut pas aller plus loin, elle n'ira pas plus loin. Elle décide de déposer une plainte officielle parce qu'elle veut éviter à d'autres étudiantes d'avoir à subir de telles pratiques. La plainte peut être pensée comme un travail non reproductif, le travail que tu dois fournir pour empêcher que les mêmes choses se reproduisent, pour empêcher la reproduction d'un héritage. Lorsqu'elle informe l'AE délégué syndical du master qu'elle a l'intention de porter plainte, elle reçoit un avertissement. Fais attention, c'est un homme important. Un avertissement est autant un jugement qu'une consigne à suivre. Elle poursuit la procédure. Et au passage, elle sacrifie les lettres de recommandation qu'il aurait pu lui écrire. Évoquant son projet de doctorat, elle dit « Cette porte est fermée. » Cette porte est fermée. Les recommandations peuvent être des portes, ce qui empêche certaines personnes de continuer d'avancer. Quand la porte se referme sur sa plainte et sur elle, elle n'est plus là pour apporter à l'institution ce qu'elle aurait pu lui apporter. Alors que la plainte est maintenue ouverte pour lui, pour qu'il puisse continuer de faire ce qu'il a toujours fait, là où il a l'habitude de le faire, en huis clos. La figure de l'homme important nous montre comment fonctionnent les institutions, pour qui elles fonctionnent. Une universitaire à la retraite m'a raconté la manière dont sa candidature pour être promue professeur avait été mise à la poubelle. L'université avait décidé de n'accorder qu'un seul poste de professeur au cours de ce processus d'avancement. Donc, à votre avis, qui a effectivement été mis en avant? Évidemment, un homme largement moins compétent que n'importe laquelle des femmes qui avaient postulé. L'argumentaire du responsable du département reposait sur l'importance des contacts et relations qu'avait cet homme dans la communauté. Pour qu'il reste, il fallait lui donner la promotion, parce que le département ne voulait pas le perdre. Le département ne voulait pas le perdre, une porte lui est ouverte en raison des personnes qui l'amènent avec lui. L'importance dépend souvent des relations. Pour progresser, il est probable qu'on te dise qu'il te faut le bon réseau, les bonnes relations. On te dira peut-être de ne pas te plaindre au sujet d'un homme important parce que tu as besoin d'une recommandation de sa part. Ou on te dira peut-être de te référer à un homme important. Plus on emprunte un chemin, plus ce chemin est emprunté. Plus on le cite, plus il est cité. Nous n'apprenons pas seulement qui citer, mais aussi comment le faire. Sarah Franklin a mené une enquête sur le sexisme à l'université, en 2015, en partant de la réaction assez extrême du professeur P à l'une de ses dissertations, une dissertation féministe sur Émile Durkheim. Les annotations du professeur P, principalement réalisées au stylo rouge, recouvraient l'ensemble de son écrit et en faisaient une sorte de document sanglant. Franklin montre comment le sexisme peut être un moyen de la reproduction, fonctionnant par interdiction ou encouragement à choisir un chemin, en bloquant par exemple une conversation ou un débat qui s'engagerait dans la mauvaise direction, ou en facilitant la bonne manière de penser ou de critiquer, créant ainsi des espaces dans lesquels évoluer. L'interdiction ou l'encouragement. L'interdiction est une histoire de porte évidente. On t'empêche de faire quelque chose parce qu'on t'interdit d'accéder à l'endroit où tu pourrais le faire. Tu pourrais bien te trouver sans carrière tracée devant toi si tu ne suis pas le bon chemin, qu'il s'agisse du choix d'une discipline ou d'une autre. Un chemin, une ligne. Je pense à la manière dont même le processus de décolonisation de certaines problématiques nous demande de marcher en équilibre sur un fil. Rappelez-vous cette femme racisée à qui l'on a demandé d'adoucir son propos. Peut-être ne lui demandait-on pas seulement d'estomper sa présence dans son texte, mais aussi de citer correctement, de citer blanc. L'encouragement est également une histoire de porte. Une histoire de porte un peu moins évidente, mais une histoire de porte néanmoins. On te dit comment tu dois procéder pour qu'une porte ne te soit pas fermée. Un peu plus tôt, j'ai suggéré que les avertissements nous conseillant de ne pas porter plainte, sont une manière de nous dire de nous aligner sur l'institution. Les avertissements déconseillant de porter plainte font partie d'un ensemble d'actes discursifs que nous nommons souvent conseils d'orientation professionnelle. Les conseillers de carrière sont un appareil de redressement. Ne pas se plaindre revient à développer une attitude plus positive envers l'institution et tout ce qu'elle lègue à sa suite. Une chercheuse racisée décrit. Il y a un accord entre les gens. Il ne faut pas faire de vagues. Les gens parlent de l'institution comme d'un héritage et suggèrent que tu ne comprends tout simplement pas l'histoire de l'institution, la manière dont elle s'est formée. Cela implique de respecter la manière dont ce lieu s'est organisé, de même que l'essence de ses traditions. Et si tu ne te plies pas à cela, c'est parce que ça ne fait pas encore 10 ans que tu es là. Fin de description. Faire d'un héritage un projet, c'est s'engager dans une relation à ce qui a été reçu du passé. Pensez aux mots qu'elle emploie. Respecter, se plier, mais aussi comprendre. Cela sous-entend que porter plainte revient à donner la preuve de notre manque d'expérience dans une institution que l'on n'a pas fréquentée assez longtemps pour la respecter, pour respecter son organisation, ses traditions. Tu deviens une plaignarde lorsque tu n'as pas, ou pas encore, intégré les normes de l'institution. Plus haut, j'ai montré comment la figure de la plaignante devient un contenant pour de l'affect négatif. La négation est aussi une relation à l'institution. Tu deviens une plaignarde lorsque tu ne parviens pas à reproduire un héritage institutionnel. Vous vous souvenez de la femme racisée qui a été virée du comité pour la diversité après avoir parlé de sujets relatifs à la race? Il te suffit d'utiliser le mot « race » pour qu'on dise que tu es en train de te plaindre. Ce mot est la preuve que tu n'as pas intégré les normes de l'institution. Elle explique. Dès que tu soulèves un problème, on te répond que tu n'es pas à l'une des leurs. Une plainte semble amplifier ce qui te rend inadapté, en mettant le doigt sur ce que tu n'es pas. La personne qui se plaint devient l'étrangère. Tu n'as pas besoin de porter plainte pour devenir celui qui se plaint. Je parlais avec une universitaire lesbienne qui est devenue la première femme à prendre la tête de son département et, comme on s'en doute, la première lesbienne. Un jour, Umeti Jongs la présente comme la responsable lesbienne du département. Des collègues en ont ensuite discuté. C'était comme si j'exhibais une pancarte incitant les étudiantes à prendre part à cela. Le simple fait d'être appelée responsable lesbienne du département peut donner l'impression que tu cherches à servir tes propres intérêts, tes intentions cachées. Certaines personnes sont jugées insistantes, comme si elles cherchaient à faire des vagues, à s'imposer par le simple fait de ne pas être ou de ne pas chercher à reproduire le même. Être désignée comme une universitaire lesbienne, c'est presque déjà soulever un problème. C'est comme brandir un drapeau. Lorsque tu soulèves un problème ou qu'un problème est soulevé à ton sujet, cela est considéré comme la preuve que tu n'as pas ta place ici ou que ce lieu n'est pas fait pour toi. Le fait d'être à sa place, cette appartenance au groupe ou au lieu, peut s'exprimer par une proximité ou par une gentillesse. Une autre universitaire décrit ainsi un incident. C'était vraiment étrange. On était au bureau, à l'université, et il a commencé à parler de l'un de mes cours et a dit « L'inspecteur a dit quelque chose » et j'ai répondu « En fait, je ne suis pas d'accord avec l'inspecteur. » Et là, il a répliqué « Eh bien, va te faire foutre, tu connais rien, cet inspecteur est un grand professeur, dégage. Tu te prends pour qui pour parler de lui comme ça en public ?» J'ai appris plus tard que l'inspecteur est l'un de ses plus proches amis. Alors, je suis allée voir la présidente de l'université pour dire ce qui était arrivé, et elle m'a répondu. « Tu sais, c'est un peu l'oncle relou de l'établissement. Il est comme ça, c'est tout. Faut laisser couler. » Fin de citation. Des réseaux d'amis, des relations familiales. L'oncle relou apparaît ici comme une figure, comme ce qui est familier, mais aussi comme une consigne qui lui est donnée à elle. Laisser couler, ne pas se plaindre, accepter le comportement agressif et abusif, parce que c'est de cela que les familles sont faites, parce que c'est comme ça qu'on fait en famille. La personne qui se plaint devient non seulement extérieure au « nous », mais aussi extérieure à la famille. Pour être l'une des leurs, ou bien pour ne pas être pas l'une des leurs, tu dois être en relation avec un homme important, t'apparenter à lui. Je pense à cette post-doctorante qui a été incapable de trouver qui que ce soit pour soutenir sa plainte déposée contre ses encadrances. Une autre étudiante lui dit « Je suis là depuis l'âge de 17 ans. J'ai grandi avec ces personnes. Je ne peux rien faire. » Progresser dans les études s'apparente à grandir en tant que personne. Se plaindre devient une chose que tu ne peux pas faire. Ce que tu ne peux pas faire est ce qui les protège. J'ai échangé avec une universitaire dont le travail a été plagié par un collègue. Le président lui demanda de garder le silence à ce sujet, car c'est la famille. Il ne cessait de me rappeler à moi, une lesbienne, que ce collègue a une femme et un enfant. Elle entendait très bien ce qu'on lui disait, que si elle portait plainte, elle ne lui porterait pas seulement préjudice à lui, mais aussi à sa famille. Il est possible que ce rappel lui soit adressé à elle comme à une personne n'ayant pas de famille à protéger. La protection d'une personne devient la protection de ses proches. Quand je pense à la protection, j'entends le silence. Quand je repense à mon expérience de plainte, j'entends le silence. Le silence peut être un mur. Je pense aux efforts fournis pendant 3 années pour essayer d'obtenir de l'université qu'elle reconnaisse le problème de harcèlement sexuel. Nous n'avons même pas réussi à obtenir une reconnaissance publique du fait que ces enquêtes avaient eu lieu. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Ce qui était, je n'ai aucun doute là-dessus, les faits recherchés. La toute première mention publique à leur sujet fut d'ailleurs une publication sur mon blog, écrite juste après avoir démissionné, ce qui vous en dit certainement beaucoup sur les raisons de ma démission. L'université traita mes publications en ligne au sujet de ma démission comme une fuite d'informations, une pagaille que je semais, des dommages que je leur causais. Mais il n'y a pas que l'université qui a jugé mes révélations comme dommageables. Une collègue féministe a décrit mon action comme non professionnelle, car elle a eu des répercussions qui nous nuisent à nous tous, maintenant et dans l'avenir. Nous apprenons ce que signifie être professionnel. Être professionnel, c'est accepter de garder les secrets de l'institution. Il est important de noter que ce silence n'est pas uniquement soutenu et renforcé par les services de management et de marketing. Le silence peut aussi être le produit d'une loyauté transformée en devoir par nos propres collègues, y compris nos collègues féministes. Le silence pour protéger les personnes importantes, le silence pour protéger des ressources, le silence pour protéger une réputation individuelle, institutionnelle, le silence comme agent de promotion, la manière dont tu maximises tes chances d'aller loin ou d'obtenir plus de la part de l'institution. En d'autres termes, si l'histoire d'un homme important est l'histoire de celui, de celui qui reçoit protection et promotion, elle est aussi celle du nombre de personnes se retrouvant enrôlées à faire ce travail. Une universitaire en début de carrière parle de la raison pour laquelle les gens ne portent généralement pas plainte dans son université, à cause du comité d'accueil qui les attend. Elle dit « Les gens ne veulent pas faire de vagues avec leur supérieur hiérarchique universitaire, parce qu'elles sont très influentes et importantes, et qu'elles ramènent de l'argent issu de subventions dans les caisses, et que leur nom compte. » Fin de citation. Ne pas vouloir faire de vagues peut participer d'un effort pour maintenir de bonnes relations avec les personnes plus importantes du fait qu'elles détiennent davantage de ressources. Une grande part de la violence est rendue possible et reproduite parce que les gens pensent ne pas pouvoir faire de vagues. Autrement dit, il y a de la violence à maintenir les choses en place, stable, de la violence à stabiliser. Lorsque tu portes plainte, en particulier publiquement, on te juge coupable d'essayer de déstabiliser l'édifice dans son ensemble, de nous nuire à nous tous. Et par nous tous, il faut entendre, c'est le pour qui les institutions promettent davantage de ressources. Audre Lorde, 1979, nous avait prévenu que ça arriverait. Elle nous avait dit que celles qui trouvent leurs ressources dans la maison du maître jugeraient comme menaçantes toutes les personnes qui s'efforcent de la détruire, ou même de simplement demander ce que le maître fait là-dedans. Si se plaindre, porter plainte, c'est entendre le silence. Se plaindre, porter plainte, c'est aussi entendre le clic-clac de la machine institutionnelle, le système qui fonctionne en empêchant celle qui tente de l'empêcher de fonctionner. Nous comprenons comment les institutions se reproduisent quand nous tentons d'interférer dans leur reproduction. Quand tu portes plainte, tu ne te dis peut-être pas tout de suite que tu fais partie d'un mouvement. Tu ne te vois probablement pas non plus comme critique de l'institution, et sans doute pas non plus comme une personne qui veut détruire la maison du maître, pour reprendre le titre de cet essai majeur d'Audre Lorde. Mais c'est pourtant là que finissent par se retrouver grand nombre de celles qui portent plainte. Il y a de l'espoir dans cette trajectoire. Conclusion. Non et autres contes queer. La troisième partie de mon livre sur la plainte s'intitule « If these doors could talk », si ces portes pouvaient parler. En écoutant les portes, j'ai beaucoup appris sur le pouvoir, sur la manière dont la porte laissait grande ouverte pour certaines personnes et la même que l'on referme au nez d'autres. L'image sur la couverture de Complaint a été réalisée par l'artiste Rachel Whiteread, 2006-2007. Il s'agit de Double Doors 2, A plus B, une installation apparemment constituée de deux portes de taille ordinaire, placées côte à côte contre un mur. Ce sont en réalité deux blocs de plâtre moulés sur deux portes réelles, comme des négatifs de portes. Ce que j'apprécie dans cette image, c'est la manière dont ces deux portes ainsi réunies nous parlent de temps, aussi bien que d'espace. J'aime la manière dont elles ressemblent à des dalles funéraires, la manière dont elles nous parlent de celles qui ne sont plus parmi nous. Les portes ont des histoires à raconter. Elles peuvent être notre manière de raconter nos histoires. Les portes ont des usages queer. Vous vous souvenez des oiseaux qui ont transformé une boîte aux lettres en nid ? Je vois ces oiseaux comme nos parents queer. Ils ont fait d'une ouverture prévue pour des lettres une porte queer, une manière de rentrer et sortir de la porte, une manière de rentrer et sortir de la boîte. Une porte queer peut être ce qui nous permet de nous créer un espace. Je repense à ce que Judith Butler sur le coming out, la sortie du placard assimilée à une entrée dans un espace limité, comme un sous-sol ou une université. Il y avait une porte dans cette histoire. Dans Défaire le genre, 2016, Butler raconte une autre histoire de porte. Yale parle d'un moment où Yale était au sous-sol de leur maison, ayant fermé la porte à clé, et où, dans les coulisses d'une pièce sans air, saturée de fumée, Yale trouvait des livres qui avaient appartenu à ses parents, ou qui étaient tout du moins passés par leurs mains, des livres de philosophie qui enflammèrent son propre désir. Des espaces qui ont l'air de placards ou de boîtes peuvent devenir des lieux où des choses queer, des choses étranges et obliques, ont une chance de se produire. Ces espaces peuvent devenir des lieux où nous trouvons de quoi ouvrir de nouveaux horizons. Une porte fermée, une pièce. J'écoute une chercheuse autochtone. Elle m'explique combien il est devenu presque impossible pour elle de se rendre à l'université après avoir subi une longue période de harcèlement et de brutalité de la part de professeurs blancs-blanches, à laquelle s'ajoute l'effort concerté d'un de ses encadrants, un autre homme important, sans aucun doute, pour saboter sa titularisation de même que celle d'autres universitaires autochtones. Lorsqu'on vous ferme une porte, que dis-je, lorsqu'on vous claque une porte au nez, c'est souvent l'histoire que vous devez affronter. Sa plainte n'a abouti à rien. Alors, elle a trouvé une autre façon de la défier. Voici. J'ai retiré tout ce qu'il y avait sur ma porte, mes affiches, mon activisme, mes pamphlets. Je les ai éparpillés dans l'ensemble de l'établissement. Je savais que j'entrais en guerre. J'ai réalisé un rituel guerrier de notre tradition. J'ai baissé le volet, j'ai enfilé un masque. Mon peuple, nous avons un masque. Et je n'ai pas rouvert ma porte pendant un an. Elle est devenue une faille par laquelle je ne laissais entrer que mes étudiantes. Durant une année, je n'ai laissé entrer dans mon bureau que les personnes qui y avaient déjà été invitées auparavant. Fin de description. Fermer la porte est sa manière de dire non à l'institution qui veut sans cesse accéder à elle, qui veut tirer d'elle tout ce qu'elle peut. Elle ferme la porte à l'institution en se retirant, en retirant ses engagements de la porte. Elle continue de faire son travail. Elle continue d'enseigner auprès de ses étudiantes. Elle se sert de la porte pour maintenir à l'extérieur ce qu'elle peut, qui elle peut. Elle se retire de la porte. Elle dépersonnalise la porte. Elle abaisse les volets. Elle enfile un masque, le masque de son peuple, reliant sa lutte aux combats qui ont précédé, parce que, très honnêtement, pour elle, il s'agit d'une guerre. Nos combats ne sont pas les mêmes combats, mais il y a de nombreuses batailles menées à huis clos. À huis clos, de l'autre côté des portes fermées. C'est souvent là que l'on trouve les plaintes. Donc, c'est aussi là que vous avez une chance de nous trouver, celle d'entre nous pour qui l'institution n'a pas été construite. Et ce que nous apportons avec nous, les personnes que nous emmenons avec nous, les mondes qui n'existeraient pas si certaines d'entre nous n'étaient pas là, nos corps, nos souvenirs. Plus nous débordons, plus l'étau se resserre sur nous, plus il nous faut continuer à déborder. Beaucoup de plaintes finissent dans des boîtes, qu'on appelle aussi communément des classeurs. On peut penser ce meuble de rangement comme une sorte de placard institutionnel, un placard de rangement d'archives. Ce qui est enterré là, c'est ce que l'institution ne veut pas voir révélé. Nous aussi, nous pouvons être enterrés là, nos vies devenir les détails de leurs documents. Une étudiante m'a dit que sa plainte avait été fourrée dans une boîte. Une autre étudiante évoque le cimetière de la plainte comme ce lieu où aboutissent les plaintes. Peut-être que les classeurs sont le lieu où les plaintes se rendent pour mourir. Si les plaintes finissent dans le placard institutionnel, le travail nécessaire pour porter plainte inclut de faire sortir les plaintes de leur boîte, de les rendre publiques. Alors qu'une étudiante handicapée ne parvenait à rien avec sa plainte déposée contre l'université pour n'avoir pas effectué des changements satisfaisants en termes d'accessibilité, un dossier a fait son apparition. Tout un ensemble de documents ont été envoyés sur le fax du syndicat étudiant et nous n'avons jamais su d'où ils venaient. C'étaient des documents historiques qui parlaient d'étudiantes qui avaient dû quitter l'université, décrit-elle. Ces documents incluaient une lettre manuscrite adressée à une association pour les droits humains par une ancienne étudiante qui, vivant avec le cancer, avait demandé à l'université de la laisser finir son diplôme avec un emploi du temps adapté. L'étudiante à qui ces documents sont envoyés suppose qu'il s'agit d'une personne au secrétariat qui a fait sa petite part d'action directe, fuitant ces documents en signe de soutien à cette plainte déposée. Un soutien que sa fonction de secrétaire ne lui autorisait normalement pas à donner. Il n'y a rien de surprenant à ce qu'une secrétaire puisse se transformer en sabotaire. Le mot secrétaire vient du mot secret. L'AE secrétaire, c'est celui qui garde les secrets. Si l'étudiante à laquelle j'ai parlé n'avait pas déposé sa plainte, la lettre serait restée à sa place. Le fichier aussi. À prendre la poussière. Enterrez-la. Il y a tant de personnes engagées à retirer, enlever, arracher, ôter quelque chose de quelque part. Une plainte déposée au présent peut faire ressortir des plaintes du passé. Nous pouvons nous rencontrer dans une action sans nous rencontrer en personne. Je pense à toutes ces actions différentes dans le livre que je nomme « activisme de la plainte ». Des étudiants et des universitaires qui mettent en acte et en scène leurs plaintes, qui les transforment en affiches, les communiquent sur des flyers ou les expriment sous forme de graffiti dessinés dans des livres sur des murs. Les plaintes peuvent être ce qui échappe, ce qui fuit, autant que ce qui fuite. Lorsque tout est fait pour empêcher l'expression d'une plainte, la plainte peut devenir le son de sa libération. C'est la raison pour laquelle j'ai donné une telle importance dans ce travail au son de l'action. Du travail fourni, pas simplement le clic-clac de la machine institutionnelle, mais aussi les grognements et gémissements de ce que nous ne cessons d'affronter. Les portes claquent, alors nous frappons à la porte. Nous ne frappons pas à la porte pour demander à entrer, mais pour créer une perturbation. J'entends Audre Lorde frapper à la porte et dire qu'il se passe quelque chose. Dans un entretien avec Adrienne Rich, Lorde décrit sa fascination pour le poème « The Listeners », celles qui écoutent. Un poème à propos d'un voyageur à cheval qui arrive devant la porte d'une maison qui semble vide. Il frappe à la porte et personne ne répond. Il demande. Y a-t-il quelqu'un ? Et il a le sentiment que oui, qu'il y a vraiment quelqu'un à l'intérieur. Puis, il fait faire demi-tour à son cheval et lance. Dis-leur que je suis venu, mais que personne n'a ouvert la porte, que j'ai tenu parole. J'avais l'habitude de me réciter ce poème tout le temps. C'était l'un de mes préférés. Et si tu m'avais demandé, de quoi parle-t-il ? Je ne pense pas que j'aurais pu te répondre, mais c'est grâce à cela que j'ai commencé à écrire, pour satisfaire mon besoin de dire des choses que je ne pouvais pas dire autrement, quand je ne trouvais pas d'autres poèmes pour le faire à ma place. Dans l'entretien entre Lorde et Rich, 1981-2003. Il est important de suivre Lorde, d'aller là où elle va. Lorsqu'une chose nous fascine, nous ne savons pas toujours pourquoi. Lorde continue de se réciter le poème. Elle dit qu'il s'est gravé en elle. Je pense à cette empreinte, l'impression d'un poème sur une personne. Ce n'est pas la réponse qui compte, que quelqu'une réponde ou vienne ouvrir la porte. C'est le coup sur la porte qui compte. L'action est celle de frapper à la porte. Tu peux frapper à la porte de la conscience, essayant d'entendre quelque chose, essayant de reconnaître ce qui avait été caché, ce qui avait été chassé dehors, la violence qui rend si difficile notre concentration et notre action. Ou peut-être es-tu en train de frapper à la porte de la maison du maître parce que tu sais que cette maison est hantée. Frapper à cette porte, produire ce son, non pas toc 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 qui est là, mais Toc, 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 nous sommes là. C'est venir perturber les esprits qui traînent là à cause de la violence dont on ne s'est pas occupé. L'égratignure, la griffure, elles aussi peuvent non seulement laisser des marques, elles peuvent également émettre un son. Le son du labeur, de ce petit oiseau qui tente de se défendre à coups de griffes. La griffure peut résonner de différentes manières, comme un discours, comme une chose qui se déverse, comme un témoignage. Différents moyens de rendre audibles nos messages. L'égratignure, la griffure, l'éraflure, ces bousculades de lettres, des E et des H qui s'accumulent et peuvent nous aider à exprimer nos plaintes sur des murs. Je pense à la manière dont, après avoir quitté mon poste, des étudiantes ont extrait des mots de mon travail pour les afficher sur des murs. On voit notamment l'image d'un mur avec les mots « When you expose the problem, you become the problem. Where is Sarah Ahmed ?» Quand tu exposes un problème, tu deviens le problème. Où est Sarah Ahmed ? Oui, ils ont été retirés. Mais on ne pourra pas effacer la mémoire de leur présence sur ces murs, à ces mots. Et je pense à la manière dont, par le fait de démissionner, de dire non publiquement, les gens sont venus vers moi avec leurs plaintes. J'ai rejoint une collective de personnes, une collective de plaignantes. Nous voilà rassemblés devant vous. Plus tôt, j'ai évoqué l'image de ce à quoi ressemble une plainte. Cette pagaille, ce nœud. Peut-être que cette image est une carte queer présentant la manière dont nous nous organisons. Un organigramme nous indiquant tous les lieux que nous avons parcourus pour essayer de faire aboutir nos plaintes. Plus il nous est difficile de progresser, plus nous avons de choses à réaliser. Oui, c'est dur, épuisant, bouleversant aussi. Mais pensez à cela. Chaque ligne peut être une conversation. Une conversation que vous devez avoir. Une conversation qui peut ouvrir une porte. Juste un peu. Juste assez. Pour que quelqu'un d'autre puisse entrer. Puisse entendre quelque chose. Chaque ligne peut être du temps. Le temps nécessaire pour arriver quelque part. Une ligne de temps queer. Lorsque nous allons et venons. De ci, de là. C'est ainsi que nous apprenons. Chaque ligne peut être un chemin. Les lieux où tu te rends, les pièces sombres, les ombres, les passages de portes, une ligne qui te sert de guide, les personnes que tu rencontres en chemin. Chaque ligne peut nous ramener dans le passé, nous apprendre que nous sommes davantage, nous faire savoir que des plaintes, par d'autres avant nous, ont déjà été déposées. Chaque ligne peut être projetée vers l'avant, une fuite comme un élan. La manière dont ces personnes qui viennent après toi peuvent ramasser quelque chose de ce que tu as laissé derrière toi, dans l'effort de ce que tu as essayé de faire, même si tu n'y es pas arrivé, même s'il te semble que tu n'as rien réussi à laisser d'autre qu'une égratignure, une marque superficielle. Ce que tu laisses derrière toi sera découvert. Que nous puissions nous trouver les unes les autres à travers nos plaintes. Voilà la découverte. Quand nous déposons des plaintes, il devient possible de savoir que quelque chose s'est passé ici. Il devient possible de savoir ce qui s'est passé. Un nom qui trace un sentier, une autre histoire queer à raconter. C'était la plainte méthode queer. Par Sarah Ahmed. Référence. Sarah Ahmed, Queer Phenomenology, Orientation, Objet et Autres, 2006, traduit de l'anglais par Laurence Brottier, Paris, édition Le Manuscrit, 2022. Sarah Ahmed, Queer Fatalism, article publié sur feministkilljoys.com, 13 janvier 2017. Sarah Ahmed, Complaint, Durham Duke University Press, 2021. Sarah Ahmed, What's the Use on the Uses of Use? Durham Duke University Press, 2019. Sarah Ahmed, Manuel Rabat-Joie Féministe, 2023. Traduit de l'anglais par Emma Biget et Mabeko Oberti, Paris, La Découverte, 2024. Judith Butler, Imitation and Gender in Subordination, dans Inside Out, Lesbian Theories, Gay Theories, First Diana, New York, Routledge, 1991. Judith Butler, Défaire le genre, 2004, traduit de l'anglais par Maxime Kerville, avec la collaboration de Joël Marelli, Paris-Amsterdam, 2016. Walter de la Mare, The Collected Poems of Walter de la Mare, Londres, Boston, Faber, 1979. Sarah Franklin, Sexism as a Means of Reproduction, Some Reflection on the Politics of Academic Practice, New Formations, A Journal of Culture, Theory, Politics, volume 86, 2015, pages 14 à 33. Disponible sur Project Muse, muse.jhu.edu/article/604487. Elizabeth Freeman, Time Binds Queer Temporalities, Queer Histories, Durham Duke University Press, 2010. Ahmed Ibrahim, In and Or Plus Out, Queering the Closet, dans A Journal for Body and Gender Research, Queer Feminism, volume 6, numéro 3, 2020. Audre Lorde, Nous ne détruirons pas la maison du maître avec les outils du maître, 1979, et Entretien avec Adrienne Rich, 1981. Repris dans Sister Outsider, Essais et propos sur la poésie, l'érotisme, le racisme, le sexisme. Traduit de l'anglais par Magali Caliz, Grazia Gonick, Mariem Eliluca et Hélène Pour. Carouge, Mama Mélis, 2003. Rachel Whitebread, Double Doors, 2, A plus B, Plâtre plastifié avec cadre intérieur en aluminium, deux panneaux, Boston, Musée des Beaux-Arts, 2006-2007.